Rendez-vous.
Les infos. Vos infos d'ici.
Les informations locales et régionales, le bulletin de 8 heures avec Kim Lacaille. Kim, fermeture de la centrale de rendez-vous à l'hôpital de Maniwaki. Le conseil des maires est en colère.
Oui, l'hôpital de Maniwaki a fermé sa centrale de rendez-vous. Cette situation ne fait pas l'affaire des élus qui voient là un problème majeur d'accessibilité pour la population. La préfète de la vallée de la Gatineau, Chantal Lamarche, de même que la mairesse de Maniwaki, Francine Fortin, siègent à un comité territorial de l'hôpital et au dire de Madame la préfète, le sujet n'a jamais été discuté en réunion. Chantal Lamarche a toutefois rencontré le directeur du réseau local de services de l'hôpital de Maniwaki, Benoît Valiquette.
J'ai rencontré le directeur du RLS là, 3 fois, M. Valiquette, puis j'ai dit clairement qu'il ne peut pas enlever le service de première ligne aux citoyens. Il dit « Ouais, mais à Mont-Laurier, ailleurs... » Non, on n'est pas à Mont-Laurier, puis on n'est pas ailleurs. Nous, on a une population vieillissante, une population vulnérable. Là, ces personnes-là vont être transférées au CLSU de Maniwaki dans un bureau fermé. Aucun service direct aux citoyens, ça va être par téléphone.
Mardi dernier, les 17 maires et la préfète se sont réunis et ont demandé unanimement le retour de la centrale de rendez-vous à l'hôpital de Maniwaki.
Là, les maires, unanimes, demandent de remettre la centrale de rendez-vous à l'hôpital de Maniwaki, que le service de première ligne aux citoyens reste. Quand il y a eu la réforme Barrette, là, c'était affreux. La seule bonne chose qu'ils ont faite, c'est de mettre la centrale de rendez-vous là. Pourquoi changer une formule qui fonctionne très bien? Puis c'est pas une question d'argent non plus.
Comme le dit la préfète, elle ne lâchera pas le morceau. C'est un autre service qui est enlevé aux citoyens. Et pour Chantal Lamarche et les 17 élus de la vallée de la Gatineau, ça ne passe pas.
Moi, comme préfète, je ne me mêlerai pas de la gestion des RH. C'est pas de mes affaires, c'est clair. Mais quand on vient toucher à mon citoyen, priver un service, il y a des gens qui ont de la difficulté à lire chez nous, là, encore, là. Puis on va dire, appeler, c'est ça qu'on va dire aux gens? Là, c'est dans ma cour. Moi, je suis élu par les gens de la vallée de la Gatineau, je suis élu pour les représenter. Fait que là, j'ai eu le mandat des 17 maires et mairesses de demander de remettre la centrale de rendez-vous à l'hôpital de Maniwaki.
Il s'agit d'un dossier prioritaire pour le Conseil des maires. CAGAFM a fait une demande d'entrevue auprès du CISO et est dans l'attente d'une réponse.
Le syndicat des professeurs et professeurs de l'Université du Québec en Outaouais demande à Bernard Drainville de retirer le projet de loi 23.
Les membres du syndicat des professeurs de l'Université du Québec en Outaouais ont adopté une résolution pour demander au ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, de retirer le projet de loi 23 intitulé « Loi modifiant principalement la loi sur l'instruction publique et édictant la loi sur l'Institut national d'excellence en éducation ». Selon Charles-Antoine Bachand, professeur en fondement de l'éducation à l'Université du Québec en Outaouais et délégué syndical pour le département des sciences de l'éducation, les collègues des autres départements comprennent bien les enjeux soulevés par le projet de loi 23, dont celui de la création de l'Institut national d'excellence en éducation.
Tous les collègues des autres départements ont bien vu les enjeux qui y étaient associés. Le pouvoir, dans le fond, que donnait le projet de loi 23, autant à l'Institut, mais tout particulièrement au ministre, d'orienter la formation qui sera offerte dans les universités et aussi d'orienter certains travaux de recherche, de mettre en valeur certains travaux de recherche plus que d'autres.
Le projet de loi 23 s'intéresse à la formation en enseignement et s'ingère dans le processus de création des programmes d'études, ce qui relève présentement des universités. Charles Bachand résume le processus actuel.
Tous les programmes de formation universitaire rendent des comptes, sont imputables soit à la population, soit à d'autres universitaires, soit à des instances internes, soit à des autres professionnels quand il y en a. En éducation, il n'y a pas d'autres professionnels, donc essentiellement, on rend des comptes à nos pairs ou à une instance qui s'appelle le CAPFE, le Comité d'agrément de la formation enseignante.
L'Institut national d'excellence en éducation vise à remplacer l'actuel comité d'agrément des programmes de formation à l'enseignement. M. Bachand, comme plusieurs de ses collègues, émet des doutes sur la représentativité de la nouvelle instance.
quand on regarde le conseil d'administration, par exemple, de l'Institut tel qu'il est projeté à l'heure actuelle dans le projet de loi 23, on parle d'un conseil d'administration de 9 intervenants. Il y aurait un prof d'université puis un enseignant qui y siégerait ou une enseignante qui y siégerait. On est loin de la représentativité qui existe au sein du comité d'agrément à l'heure actuelle.
Monsieur Bachand se désole du silence de la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Derry.
On est aussi tout particulièrement déçu du silence de Pascale Derry, la ministre de l'Enseignement supérieur, qui devrait essentiellement militer pour la liberté académique, la liberté universitaire, défendre dans le fond ces préoccupations-là, puis les faire valoir auprès de ses collègues.
Le projet de loi 23 est présentement à l'étude à la Commission de la culture et de l'éducation.
Et on termine avec « Sommet le possible, une revue à la fois ».
Normand Veillette, agent de développement chez Loisirs Sports Outaouais, démarre un tout nouveau magazine semestriel « Sommet le possible ». À l'automne et au printemps, les lecteurs pourront découvrir des bonnes pratiques qui dynamisent plusieurs communautés rurales. Cette initiative personnelle et indépendante est née d'une réflexion avec d'autres acteurs du milieu du loisir, tel que le raconte Normand Veillette.
Le magazine est né d'une idée de plusieurs personnes qui œuvrent dans ce secteur-là. Puis on se rendait compte que certains magazines touchaient beaucoup plus le milieu urbain. Le Québec est un territoire tellement étendu au niveau rural, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les gens qui vivent vraiment en ruralité?
Parmi les collaborateurs du premier numéro, on retrouve la conseillère municipale, membre du comité des loisirs de la ville de Maniwaki et doctorante en développement territorial, Madeleine Lefebvre. Son texte intitulé « Les loisirs, une priorité politique » met la lumière sur trois raisons de prioriser ce secteur d'activité. Madame Lefebvre explique pourquoi elle écrit dans le magazine « Semer le possible ».
J'ai trouvé l'initiative de Normand vraiment intéressante là, pour diffuser de l'information d'une autre façon. Puis l'idée pour moi que ce soit deux fois par année, ça aussi je trouve ça intéressant. Parce que ça crée un moment, une attente, j'ose espérer, là, de la venue du prochain. C'est court, c'est diversifié. Je crois au produit. Là. Fait que je suis contente d'y avoir contribué.
Au niveau du loisir, on espère qu'on va inciter les gens puis à avoir une certaine curiosité.
Semer le possible souhaite inspirer les travailleurs en loisirs et les élus, tout en rejoignant la population en général, elle qui bénéficie directement des infrastructures et des équipements publics. À nouveau, Normand Veillette.
Au niveau du loisir, on espère qu'on va inciter les gens puis à avoir une certaine curiosité, puis pourquoi pas justement à mettre la main à la pâte pour rendre un monde meilleur.
Le magazine « Semer le possible » est disponible en ligne sur le site developpementoutaouais.wordpress.com.
Merci beaucoup, Kim, de toutes ces précieuses informations.
Merci.
Et nous, on va te souhaiter une très bonne journée. On avait quelque chose à souligner en français sur ces informations.
Oui, à souligner, panne du service d'Hydro-Québec pour le moment du côté de Blue Sea. Il y a un peu plus de 500 clients, précisément 546 clients touchés. Ça a débuté à 7h42. Bon, il y a toujours une évaluation des travaux qui est requis. On va vous tenir au courant qu'il y a un peu plus de développement là-dessus.
Parfait, ça.
Kim, on te retrouve demain 6h et
absolument.
Demain, c'est vendredi.
Oui!
Mais oui! Bonne journée, Kim.
Bonne journée.